Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais vous proposer une autre vision de la maladie à travers ce qu'on appelle le décodage biologique ou la biologie totale, qui est une approche thérapeutique qui va tenter de déchiffrer avec le patient les symptômes d'une maladie, d'une douleur, d'une gêne ou d'un comportement. Il s'agit de comprendre les origines et aussi le sens de tout cela. L'enjeu du décodage biologique, ça va être de trouver l'origine des mots MAUX, notamment en discutant avec le patient et en étudiant avec lui tous les aspects de sa vie depuis son enfance et voire même dans sa psychogénéalogie. À partir des symptômes, on va pouvoir en déduire et faire le lien entre le symptôme et l'événement et on va pouvoir comme ça travailler dessus. Alors, pour illustrer cet enseignement, on va imaginer que nous sommes comme une charrette, une calèche qui va représenter notre corps physique et qui circule sur un chemin qui symbolise la vie ou le chemin de vie. Le chemin sur lequel circule la calèche, ça va être un chemin de terre. Et comme tous les chemins de terre, il va comporter des trous, des bosses, des cailloux, des ornières et des fossés de chaque côté. On va imaginer que les trous, les bosses et les cailloux sont les difficultés, tous les heurts de la vie. Quant aux ornières, elles vont représenter les schémas, les croyances que nous avons et que nous prenons de notre famille, de notre société et que nous allons reproduire. Les fossés, plus ou moins profonds, vont représenter les règles, les limites à ne pas franchir sous peine d'accident. Ce chemin va comporter parfois des virages qui vont nous empêcher la visibilité et c'est ce qui fait que parfois on traverse des zones de brume ou des orages, ces moments de vie où nous sommes un petit peu perdus, comme dans le brouillard avec une difficulté d'y voir clair. Cette calèche, elle est tirée par deux chevaux. On va dire un blanc, qui représente la partie yang, et un gauche, le noir, qui représente la partie yin. Ces chevaux vont représenter et symboliser les émotions pour bien montrer à quel point c'est elles qui tirent et qui mènent notre vie. La calèche, quant à elle, est conduite par un cocher qui va représenter notre mental, notre conscient. Cette calèche possède quatre roues, donc on va imaginer que deux devant, c'est les bras qui donnent la direction, ou plutôt qui impliquent la direction donnée par le cocher aux chevaux, et deux derrière, deux roues derrière qui sont les jambes, qui portent et transportent la charge. À l'intérieur de la calèche, il y a un passager que l'on ne voit pas. Il va s'agir de notre inconscient. Notre calèche personnelle avance donc sur le chemin de la vie, qui est dirigé en apparence par le cocher. En apparence, car si c'est bien lui qui la conduit, c'est en fait le passager qui donne la destination. Le cocher va représenter notre mental, qui conduit donc la calèche. Donc, de la qualité de sa vigilance et de sa conduite vont dépendre la qualité et le confort du voyage, que l'on pourrait nommer l'existence. Si nous brutalisons ou brimons les chevaux, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas nos émotions, celles-ci vont s'emballer, ces chevaux vont s'emballer et risquer de conduire la calèche à l'accident, de la même manière que nos émotions nous conduisent parfois à des actes déraisonnés, voire dangereux. Si le conducteur, quant à lui, est trop relâché, s'il manque de vigilance, l'attelage va passer dans les ornières, c'est-à-dire qu'on va reproduire les schémas parentaux et on va suivre ainsi les traces et les courants existants, jusqu'au risque d'aller dans le fossé comme nos ancêtres ou nos parents l'ont fait. Si le cocher s'endort ou ne tient pas les rênes, ce seront les chevaux, les émotions, qui dirigeront la calèche. Et lorsque le cocher conduit trop vite, force trop, comme nous le faisons parfois, ou si les chevaux s'emballent, c'est l'accident qui va arrêter plus ou moins violemment l'attelage. Parfois, une roue, une calèche ou une pièce de la calèche vont lâcher, soit parce qu'elle était trop fragile, soit parce que la calèche est passée sur trop de bosses. C'est ce qu'on va appeler une accumulation de comportements, d'attitudes inadéquates qui vont nous amener à la maladie. Il faut alors réparer. Et selon la gravité de la panne, nous allons pouvoir le faire nous-mêmes. Alors comment? Par le repos, la cicatrisation. Sinon, on va devoir faire appel à un dépanneur. On va appeler ça les médecines douces, naturelles, les thérapies alternatives. Et si c'est beaucoup plus grave, on va appeler un réparateur qu'on va associer à la médecine moderne. Et il sera de toute façon important de ne pas nous contenter de changer la pièce. Il est essentiel de réfléchir à la conduite du cocher, à la manière avec laquelle nous allons changer nos comportements, nos attitudes face à la vie, si nous ne voulons pas que la panne se reproduise. Et comme disait Jung, la maladie contient l'or que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Alors comment ça fonctionne? Il faut savoir que l'être humain est composé de 3 cerveaux qui sont le fondement de notre personnalité. Ces 3 cerveaux vont fonctionner de façon hiérarchique. Alors on va trouver en premier lieu ce que l'on appelle le cerveau reptilien, qui est la source de nos instincts. Donc ce premier niveau, il traite de l'urgence. Cette zone du cerveau va privilégier les sens, et en particulier l'odorat, le goût et le toucher. Ce cerveau va disposer d'une mémoire à court terme et il réagit de façon non verbale pour apporter une réponse immédiate au présent, celui qui réagit. C'est celui du règne animal, celui qui va nous intéresser en décodage biologique. Ensuite, nous allons trouver le cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions. Alors ce cerveau-là, il va comparer avec le vécu et il va faire appel aux souvenirs, aux références du passé qui donnent la faculté de ressentir la notion de plaisir ou de souffrance. Il va être sensible aux signes de reconnaissance et de récompense et il va tendre vers les comportements qui lui procurent du plaisir. Il va réagir par l'émotionnel. Donc si la situation est désagréable, elle active le cerveau reptilien en défense. Si au contraire elle est agréable, alors elle le rend curieux et va stimuler le néocortex pour analyser la situation. Quant à ce troisième cerveau, qui est le néocortex, c'est la base de notre raisonnement rationnel, on l'appelle aussi le mental. Lui, il exploite la logique, la raison, le langage symbolique et offre la capacité d'abstraction, d'association, d'imagination. Le néocortex, c'est le centre de l'observation, de l'analyse, de la mémoire à long terme. C'est celui qui nous permet de réfléchir, d'avoir un esprit de synthèse, de déduction. C'est aussi le cerveau de l'anticipation de l'avenir. La maladie va être l'expression d'un conflit dans un espace biologique. C'est aussi la réponse parfaite du cerveau. C'est-à-dire que la maladie va prendre le relais sur une situation douloureuse à laquelle mon conscient, mon mental ne trouve pas de solution. Il faut savoir que notre cerveau ne peut pas agir sur l'extérieur, il ne connaît pas l'autre. Lui, il ne peut agir que sur ses propres cellules. On va prendre l'exemple issu de l'enseignement de Claude Sabat, qui a été un des premiers à amener en France la notion de décodage biologique. Alors, ça va être l'histoire du mouton. Le mouton est un animal qu'on va considérer comme faible, c'est-à-dire que s'il vivait seul et isolé, il serait en danger. Donc le principe du troupeau va alors permettre de former une masse assez importante pour décourager les prédateurs. Mais il arrive que si l'un d'eux s'éloigne suffisamment du troupeau pour se perdre, il peut alors être en danger de mort. On va imaginer qu'un mouton il se sépare du troupeau et il va réaliser qu'il est perdu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à courir dans tous les sens pour retrouver son troupeau. Mais bientôt, ne sachant plus dans quelle direction aller, il va tourner en rond et il va perdre ses forces. Et s'il continue comme ça, il risque la mort par épuisement. Donc ce stress, pour lui, est ingérable, pour notre mouton qui se retrouve seul et sans solution dans la nature. À ce moment-là, son cerveau biologique va prendre le relais. C'est-à-dire que pour sauver la vie de cet animal qui panique, il va falloir arrêter ses mouvements désordonnés et stériles. Dans ce cas, la solution parfaite du cerveau va être de nécroser sa cortico-surrénale. Pour schématiser, la cortico-surrénale est une petite capsule qui se trouve sur le rein et qui va gérer l'énergie vitale. Si elle est nécrosée, l'information ne passe plus et le mouton ne peut plus utiliser son énergie en réserve. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va s'écrouler. Notons bien qu'il ne tombe pas parce qu'il n'a plus d'énergie. Son cerveau, pour lui sauver la vie, va provoquer justement son effondrement avant qu'il ait épuisé tout son potentiel énergétique. Il s'agit bien de la solution parfaite pour la survie du mouton. Le soir, le berger et ses chiens vont retrouver le mouton et le mouton, le pauvre, se paraît complètement amorphe, comme mort. Mais à leur approche, l'inconscient du mouton va reconnaître les odeurs familières et relié à son troupeau par son flair, il n'est plus du tout isolé et ne se sent plus en danger. Et il suffit que le berger remette l'animal sur ses pieds en le tenant sous le ventre, qu'il l'oriente dans la direction du troupeau en l'accompagnant sur quelques pas pour que celui-ci, après une légère crise de tremblement, s'ébroue et reparte en pleine forme, retrouver ses congénères. D'après cet exemple, on se rend compte qu'on ne met pas un an à tomber malade. Cela va se passer en une fraction de seconde. Ce que l'on va nommer le biochoc va naître à un instant précis et il est vécu en un lieu précis. Il apparaît lors d'un événement senti comme conflictuel et imprévu, dramatique, c'est-à-dire sans solution satisfaisante et souvent vécu seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager ce que l'on sent en soi à ce moment-là et nos mots ne peuvent pas traduire ce que j'éprouve et du coup, je ne peux pas exprimer ce que je ressens. Et très souvent, l'origine va prendre ses racines dans nos histoires du passé, nos blessures d'enfance, jusqu'aux blessures de nos ancêtres. Le biochoc se produit lorsqu'un événement extérieur nous trouve démunis, lorsque nous ne pouvons plus nous adapter à ce qui se passe et du coup, dans notre mémoire, nous n'avons rien à mémoire par rapport à notre apprentissage et on n'a pas en fait de solutions qui vont être conscientes. La solution qui va donc nous rester va être les solutions inconscientes, celles qui se situent dans notre corps. Lorsque le besoin biologique n'est pas satisfait, on appelle ça un conflit. Ainsi, derrière tout conflit, il y a un besoin biologique non satisfait. C'est un petit peu comme les deux faces de la même pièce, besoin et conflit. Lorsque le besoin biologique n'est pas satisfait, notre cerveau inconscient en est immédiatement informé. Et à ce moment-là, ça va être la naissance du ressenti, de l'émotion. L'émotion, c'est la trace donc consciente d'un besoin biologique non satisfait. Cette information, dans notre corps, va s'exprimer à travers un organe spécifique et c'est ce qu'on va appeler la maladie. Il va être donc nécessaire de suivre ce fil d'Ariane, de retrouver le drame, l'événement, l'imprévu conflictuel qui a surgi à un moment précis dans notre vie. Donc, quel que soit notre parcours individuel de vie, toute notre vie est ponctuée d'événements espérés ou inattendus, heureux ou dramatiques, et nous serons tous, un jour ou l'autre, confrontés à l'ingérable, comme des deuils, des maladies, des accidents, nous laissant désemparés et démunis. Face à tout ce qui nous atteint, en fait, on va avoir deux attitudes possibles. Soit nous mettons l'événement sur le compte de la malchance ou d'autrui, c'est-à-dire que nous concluons que le monde il est pourri, les autres, la vie sont injustes ou cruelles et que vraiment nous manquons beaucoup de chance. Ou bien on passe par un autre postulat et on se demande pourquoi ça nous arrive à ce moment de notre existence et on essaye un peu plus tard quand même, je pense, de voir le cadeau et de relier notre histoire personnelle pour tenter d'en trouver le sens. Consciemment ou non, nous avons tous et toutes une vision du monde, des références, des habitudes de raisonnement ou des schémas de pensée sur lesquels nous nous appuyons. Et la plupart du temps, on va considérer les événements de la vie à travers ces filtres-là, nos lunettes, sans vraiment les remettre en question. Nous avons toutes et tous une grille de lecture qui est issue de ce qu'il est. Et tant que rien ne vient bousculer ces certitudes, il n'y a pas de raison finalement de les modifier. Par exemple, pour le thérapeute, tout est inconscient. Pour le sportif, tout est corporel et alimentation. Pour celui qui fait des thérapies énergétiques, tout est énergie. Et pour l'artiste, tout est création. Et finalement, tout le monde a raison. Alors tout le monde a raison si nous acceptons de nous dégager de nos structures et d'affirmer nos vérités à l'exclusion de toutes les autres, parce que ça va limiter notre univers à une seule vision et ça va nous faire rentrer dans le binaire de ce qui est bien, de ce qui est mal. Alors maintenant, comment fait-on ? Pour comprendre les origines, il va s'agir de rencontrer l'événement programmant et pour cela, nous allons devoir retourner dans notre histoire et comprendre la blessure émotionnelle. Comme je l'ai dit dans le podcast précédent, il est nécessaire de ressentir la douleur de l'événement, l'exprimer, dire les mots MOTS, les ressentis inavouables, pour ensuite avoir le choix de changer le support de cette expérience, de changer notre vision et d'avoir une autre interprétation de cet événement, de l'événement qui a eu lieu. Et pour cela, à mes yeux, il est nécessaire d'être accompagné à travers toutes les formes de psychothérapie. Ça peut être de la PNL, ça peut être de la CNV, ça peut être de l'hypnose, enfin bon, plein de techniques différentes, des pratiques chamaniques aussi. Et pour moi, ce que j'aime énormément faire, ce sont des actes symboliques. L'acte symbolique est issu de Alexandro Jodorowsky, qui est pour moi le père des actes symboliques, et plutôt, on va appeler ça des actes psychomagiques qui nous permettent de sortir de nos enfermements mentaux. C'est aussi donc une solution, une possibilité. Un de mes constats est que l'être humain est malade souvent par manque de vocabulaire, par difficulté, voire incapacité d'exprimer ce qu'il ou elle ressent, non pas qu'il ne le désire pas, mais plutôt de savoir déjà ce qu'il ressente. Et c'est après ce constat, du coup, que j'ai décidé de mettre en place des cercles, des stages, pour déjà commencer par la base, apprendre à se dire, à sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, et tout cela en toute confiance, pour pouvoir poser des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X, et sortir comme ça de la peur et de la honte, surtout. Et pour cela, il va être nécessaire de se questionner, d'élargir notre vision du monde, de changer ses croyances limitantes, déjà de comprendre toutes ces croyances et pensées qui nous enferment dans notre prison mentale, afin de devenir plus créatif en posant des actes et en choisissant de nouvelles directions. Les circonstances, les événements douloureux de notre vie ne peuvent jamais vraiment être la cause de notre souffrance, mais nos réactions face aux circonstances, nos interprétations, c'est eux qui vont créer notre souffrance. Et le problème n'est pas d'avoir vécu finalement un drame, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette expérience, de cette information, quel support j'ai donné à cela. Alors pour résumer, terminer ce podcast, face à un événement, une situation douloureuse, déjà la première chose à faire, me semble-t-il, c'est d'éviter de trouver des responsables, des figures d'ennemis. Et à ce moment-là, de sentir plutôt ce qui se passe pour vous, de mettre des mots sur vos ressentis et ensuite retrouver vos besoins et les nourrir. Alors accueillons aussi l'idée que nous ne pouvons pas tout comprendre, qu'il y a aussi des choses qui nous dépassent, qui nous échappent. Alors parfois, posons des genoux à terre et savourons le fait d'être simplement vivant dans toute notre humanité, merveilleusement imparfaite. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous souhaite de marcher toujours au plus près de vous dans la réalité du moment. À très bientôt. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me. Is here to create magic on earth. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you and me is here to create magic on earth. Let the fire burn away your fears. Let the wind blow into your life. Such faith and trust. Oh, let the earth hold you. Take care.